I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va effectivement avoir un sujet d'IA générative, mais qui va vous changer un peu de d'habitude, puisqu'on ne parle pas de texte, on ne parle même pas d'image, on va en parler fortiori, mais on parle bien de 3D et d'environnement 3D. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et là, contrairement aux sortes de plateaux qu'on est tout doucement en train de voir arriver dans les autres domaines. Pour le coup, en 3D, il y a vraiment tout à faire. Je dis un plateau, mais avec des énormes guillemets, parce que globalement, ça bouge quand même énormément. Mais vraiment, en 3D, on est à une étape où c'est encore assez marrant, parce qu'on ne sait pas du tout la vitesse où ça va pouvoir aller. C'est-à-dire qu'on est au balbutiement. Il y a une petite vibe 2022 où on découvre les premiers LLM et où on découvre Stable Diffusion, etc. C'est un peu ça, mais dans la 3D.
Donc c'est sans doute le moment le plus excitant pour les chercheurs sur le domaine et les développeurs.
C'est probable. Voilà,
exactement comme ça se passe.
En gros, il y a tout à faire. On n'est pas dans de l'affinage, de l'amélioration, ouais, du petit détail qui est un peu plus le cas déjà typiquement. Tu regardes la différence, on va voir ça, mais la différence entre Midjourney V5 ou V6, bon bah voilà, les différences elles sont toujours sympas, mais ça commence à être un peu marginal, quoi.
Alors qu'au tout début, je me souviens des débuts de Midjourney, d'Ali, ouais, etc.
C'était débile.
Tous les deux mois, c'était incroyable. On passait de trucs vraiment dégueulasses à de plus en plus de choses qui se rapprochent.
Ouais,
puis maintenant, on est blasé.
On est blasé, exactement. Mais justement, je vais vous déblaser aujourd'hui, puisqu'on va rajouter une difficulté, puisqu'on va rajouter une dimension, littéralement. C'est quand même quelque chose.
C'est quand même pas mal. À nous, la théorie des cordes, pardon.
Ouais. On reste à 3 aujourd'hui. Je vous le disais, aujourd'hui, on prend un peu tous pour acquis la génération d'images, que ce soit Midjourney, Dali, etc. C'est devenu évident qu'on peut générer des images en deux dimensions ultra qualitatives, photoréalistes, que ce soit de la photo, des illustrations, des petits objets, voilà, on peut absolument tout faire. Mais il y a un truc qui n'est pas possible depuis encore plusieurs années, où on voit les premiers balbutiements, c'est de la génération 3D. Alors, à quoi ça peut servir? On peut se dire de pouvoir générer des objets, des environnements 3D. Eh bien, en fait, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour se rendre compte que ça pourrait être une dinguerie. Imaginez par exemple des jeux vidéo où votre monde, votre univers se génère sous vos yeux en fonction de votre aventure, en fonction des décisions que vous prenez, tu vois. T'imagines un open world, ton prochain Zelda, sauf que t'es le premier à avoir foulé telle ou telle zone de la carte. Et ce serait pas à la Minecraft des trucs autogénérés, mais des trucs vraiment hyper uniques, des visages de personnages qui seraient uniques à ton expérience. Enfin, dans le jeu vidéo, évidemment, les applications sont évidentes, mais même au-delà de ça, on peut s'imaginer beaucoup, beaucoup de... T'as des idées?
Et peut-être dans la VR et l'AR, dans l'informatique spatiale.
Exactement. Avec le nouvel Apple Vision Pro qu'on vient de recevoir, etc., c'est évident que pouvoir générer des objets, des visuels, etc., à partir de rien, à partir juste d'une idée, d'un texte, ça risque d'être ouf. Imagine ton Apple Vision Pro et là, tu décris ton prochain appart, tu vois. Et hop, tu dis, tiens, j'aimerais un fauteuil un peu plus large, s'il te plaît, en cuir. Ouais, ok, bah, je le mets là, bam. Et tu fais ta déco d'intérieur.
À la voix.
À la voix, à partir de rien. Donc, c'est évident que ce serait fou d'avoir ça. Mais, en fait, on y est encore très loin. Et c'est pas forcément intuitif, parce qu'on pourrait se dire, non mais, moi je connais les trucs de génération d'IA, en ce moment, ça va à toute berzingue, en texte, en image, en 2D, en son... Je vois sur Twitter qu'il y a des nouveaux modèles qui sortent tout le temps, et donc je m'attends à ce que ce soit la même chose en 3D. Et ben en fait, pas du tout. Vraiment, il faut se rendre compte que la 3D, c'est une sorte de cas à part.
Et pourquoi c'est plus dur comme ça, la 3D?
Et alors, en fait, la raison pour laquelle la 3D, c'est hyper dur d'en faire des modèles de génération convaincants, c'est en rapport avec la quantité de données. Petit flashback, il y a 2 ans à peu près, pour rappel, on s'imaginait même pas encore qu'on allait pouvoir générer des visages en 2D. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2022, c'est la première version de Stable Diffusion ou de Midjourney, etc. C'était pourri. On peut voir un petit visuel avec justement l'amélioration de la qualité de Midjourney. Donc, entre tu vois, la première version, tu as un John Wick. Il fait un peu peur quand même.
Ouais.
Et évidemment, c'est un peu caché, mais on voit la version, la V6 ou la V5.
Ah, c'est impressionnant.
Et là, on arrive à du photoréalisme. Ça pourrait être une affiche officielle que ça n'étonnerait
personne. Mais c'est vrai qu'au début, on ne faisait pas d'humain, en fait.
Non, mais c'est...
On s'est dit, on va faire des paysages, c'est très bien, quoi.
C'est ça.
Ce n'est plus le cas, c'est incroyable.
Donc voilà, juste un petit rappel pour qu'on se remette bien les idées en place. Il y a 2 ans, on n'imaginait pas générer un visage en 2D. Et alors, qu'est-ce qui a permis cette évolution aussi fulgurante? En fait, c'est la masse de données de qualité. En fait, il faut réaliser que en 2D, juste en images et en photos et en visuels graphiques, il y a une manne de données qui existe actuellement et qui a été construite pendant toutes les années d'Internet, quoi, sur une trentaine d'années, à partir des réseaux sociaux, des banques d'images, des sites de graphistes genre Artlist ou des trucs comme ça. En fait, tu te rends compte que la matière de base, tout était prêt en fait, pour la génération 2D. Le deuxième truc, c'est que là, les modèles récents, ce qu'on est quasiment sûr de savoir, c'est qu'ils se sont entraînés sur des films et qu'ils ont probablement pris des gros films au box-office, des Avengers, des trucs comme ça, et ils ont fait pause toutes les secondes, par exemple, avec des captures d'écran pour générer des milliers et des milliers de visuels en très haute qualité, en 4K, pour rien.
C'est pour ça que c'est si joli, parce que la réalité n'est pas si jolie, mais les films.
Exactement. Et d'ailleurs, quand tu lui demandes de générer des scènes d'Avengers, c'est un peu louche à quel point c'est proche du matériel original. Donc, globalement, personne n'est dupe, et on sait que voilà, toute cette masse de données a permis l'amélioration en qualité fulgurante de ces 2 dernières années. Or, si tu compares avec la 3D, c'est le néant. C'est-à-dire qu'en 3D, à part quelques banques genre Sketchfab, par exemple, ou alors il y a Epic qui a fait un... Epic Games qui, pour Unreal, a créé un truc qui s'appelle Reality Scan, qui est un genre de pack d'objets 3D qui provient du réel et de la nature, qui est super quali et hyper utile.
On l'utilise, non, dans notre décor?
Ouais, on l'a déjà utilisé. En fait, il faut réaliser qu'en termes de volume, de taille de dataset, c'est rien, c'est une goutte d'eau à côté de tout ce qui existe en 2D. Vraiment, c'est absolument pas suffisant pour faire quoi que ce soit.
Surtout donc, que quand tu parles de films, on pourrait se dire il y a des films en 3D, mais c'est une toute petite minorité par rapport aux films en 2D qu'on peut trouver.
Et surtout, même les films en 3D, ce qu'ils vont avoir, c'est une 3D de parallaxe, où en fait, ils sont capables de te générer la 3D depuis un point de vue. C'est-à-dire que toi, à un endroit assis sur ta chaise, tu vois de la 3D parce qu'on te projette bien les deux images correspondant à tes deux yeux. Mais si tu bouges, l'information n'existe pas pour tout ce qui... pour toute la circonférence et tous les autres points de vue qu'il pourrait y avoir sur cette scène 3D, tu vois. Donc même ça, ce serait encore que, peut-être pas inutile, mais que partiel comme information. Donc les solutions, ce serait quoi? C'est soit que tous les studios de jeux vidéo se mettent d'accord et publient l'ensemble de leurs assets 3D de manière gratuite, open source, pour le bien de la communauté.
Autre solution, Mickaël.
L'autre solution, c'est de trouver un moyen astucieux de contourner le problème. Et c'est exactement ce que des chercheurs ont fait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est laisser tomber le text-to-3D. C'est impossible, ou alors pas avant très 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 longtemps. Et donc, il faut trouver un hack. Et le hack, c'est de tirer profit des bons de géants qui ont été faits, pour le coup, en text-to-2D, et ensuite d'essayer de faire du 2D-to-3D. Donc, en fait, on découpe... Ce que les chercheurs tentent de faire depuis récemment, c'est de découper le problème en texte tout 2D, donc on prend Midjourney ou des modèles équivalents, et ensuite d'entraîner des modèles et des systèmes qui sont plutôt capables de transformer ton image Midjourney en scène ou en objet 3D. Bon, c'est facile, c'est facile à faire, mais du coup, je pose la question, comment on fait pour convertir une image 2D en 3D?
Ouais, ça paraît pas évident comme problème.
Non, pas si simple.
Et là encore, si on revient sur l'idée de film, peut-être que si on a non pas seulement une image, mais une scène qui bouge un peu, ça peut aider un petit peu.
Peut-être un peu plus. Et bien justement, en gros, la techno qui existe depuis, pour le coup, bien plus longtemps que l'IA et que ces nouvelles techniques récentes, c'est ce qu'on appelle de la photogrammétrie. Et donc, en fait, pour modéliser un environnement 3D, on prend une multitude d'images 2D. Effectivement, tu pourrais aussi prendre une vidéo en fait, qui bouge, mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on prend énormément de photos avec des angles différents pour avoir la meilleure résolution. Et on essaye de les assembler au mieux pour créer un objet ou une scène 3D. Et donc, effectivement, ça peut soit passer par avoir genre 50 appareils photos qui prennent simultanément des photos à la chaîne ou une vidéo, soit de manière plus réaliste, tu as ton téléphone, par exemple, tu as une appli dessus et tu vas tourner autour de ton sujet et après un temps de calcul, on va te générer un objet 3D. Je me souviens avoir fait ça il y a 10 ans. Donc, j'avais une appli qui s'appelait Autodesk. Ouais, Autodesk 1, 2, 3D, je crois. Et ça permettait déjà, à l'époque, à partir d'une simple vidéo, de te générer un objet 3D de ta personne.
On pouvait faire ça il y a 10 ans avec un téléphone, mais on oublie vite. Hein.
Ouais. Et en fait, c'est assez similaire pour comparer avec la parallaxe et ce que fait l'œil humain, où à partir de points de vue différents, tu as une compréhension 3D de ton environnement, alors que ta rétine, elle chope des images 2D, en fait. Donc, c'est le même système. On prend plusieurs points de vue qu'on assemble pour avoir pour essayer de projeter un objet ou un environnement 3D.
Donc, quelque part, le cerveau, il arrive à le faire avec seulement deux points de vue, parce qu'on a deux yeux. Et là, le logiciel, on lui donne plus que deux points de vue, ça lui donne un petit avantage.
On lui donne beaucoup plus de points de vue. Et du coup, le but, c'est d'avoir non pas seulement une vision 3D avec de la profondeur, mais vraiment... l'ensemble de la pièce.
Okay. Tu vois.
Et donc, à la fin, tu as vraiment un objet en format 3D que tu peux importer dans ton logiciel de 3D, tu peux tourner autour, etc. Mais, en fait, il fallait déjà énormément de données. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de photos. Et c'était toujours un peu cracrin. Je me souviens, il y avait plein d'artefacts et il y avait beaucoup de temps de clean-up, en fait, où tu devais aller nettoyer ton image, enlever tous les petits artefacts et les petits bugs.
C'est du travail à la main. Hein.
Exactement. Et c'est ça qui explique notamment que, bah, du coup, les bases de données qu'il y a sur Internet, elles contiennent beaucoup de ces modèles un peu cracra. Et donc, ça en fait des très mauvaises bases de données pour entraîner des modèles suivants. Donc, il y a une sorte de... On va dire que le fruit était pourri depuis longtemps. Quoi. Et donc, il faut trouver une autre solution que la photogrammétrie qui est clairement obsolète. Et cette nouvelle solution, elle est arrivée en 2020. C'est une petite révolution qui s'appelle NERF. Comme le jouet, finalement. ça veut dire Neural Radiance Field. Donc, champ de rayonnement neuronaux. Et c'est ce qu'utilise pour vous montrer Google dans Immersive View. C'est un mode dans Google Maps qui permet d'avoir une sorte de vue proche de ce qui fait 3D, entre guillemets, où tu peux comme ça te balader dans une ville et bouger de monument en monument. C'est une technologie qui s'appelle NERF qui permet ça. Et là, pour le coup, on introduit du deep learning. Qui permet justement de construire cette représentation 3D à partir de plusieurs images 2D. Donc, fini les 75 appareils photos et les recoupements d'images avec des algos à l'ancienne. Là, c'est un modèle de deep learning qui permet de faire ça. À tel point, évidemment, les résultats sont assez bluffants. Là, si tu vois la différence entre d'un côté...
Là, c'est que NERF. Ah, voilà.
Voilà. Là, d'un côté à gauche, tu as ce que permet de la photogrammétrie à l'ancienne, entre guillemets. Et là, à droite...
C'est NERF.
T'as NERF.
Ouais, c'est impressionnant.
Ouais, c'est fou.
C'est parfait.
Oh. Et voilà, et la différence est... Alors, dans les faits, surtout sur ces premières versions, quand tu zoomes, etc., tu vas te rendre compte qu'il y a potentiellement des petits soucis, mais globalement, c'est quand même très, très, très bluffant.
Et c'est fou la différence qu'il y a, parce qu'en plus, les conditions de tournage sont très bonnes. C'est un drone qui tourne, donc c'est normalement parfait pour la photogrammétrie.
Alors ouais,
que
ouais.
Si tu enfin, en plus, c'est vraiment les conditions parfaites, mais NERF est quand même vachement plus puissant, c'est impressionnant.
C'est ça. Et en fait, alors, j'avoue, j'ai un peu galéré. Enfin, c'est pas aussi, j'ai pas trouvé ça aussi simple à comprendre que les modèles de diffusion. Mais en fait, il faut réaliser que ça ne génère pas un modèle 3D en tant que tel. C'est-à-dire que c'est pas juste, tu lui donnes des images, et bam, ça te pond un modèle 3D. Ce qui se passe, c'est que ça entraîne un modèle NERF. Qui, à partir de plusieurs points de vue, entraîne un réseau de neurones qui est capable de prédire ensuite des nouveaux points de vue. Donc, en gros, ton modèle, en input, tu lui donnes des nouvelles coordonnées de caméra et lui va pouvoir, sur chaque rayon de la caméra, sur chaque pixel, il va pouvoir, à partir des valeurs de pixels et des autres positions de caméra réelles, il va pouvoir généraliser et guess à ce nouvel endroit de caméra. Je pense que c'est telle valeur de pixels et telle profondeur, entre guillemets.
Parce que quelque part, à la fin, l'image, on va quand même la regarder sur un écran 2D. Donc, et quand il y a un modèle 3D, ça reste qu'une étape intermédiaire que d'avoir une représentation 3D, et à la fin, ça va être reprojeté sur un écran 2D. Et donc là, on zappe en quelque sorte cette représentation intermédiaire.
Exactement. C'est exactement ça. Et ce qui fait que tu n'obtiens pas, avec un ERF, tu n'obtiens pas de modèle 3D. Tu obtiens juste la projection à un nouveau point.
OK.
Et donc, après, en fait, à chaque fois que tu bouges ta caméra, lui, derrière, il compute une nouvelle image en utilisant le modèle NERF. C'est un peu... Moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre, j'avoue.
On voit une ILU à gauche, c'est ce qu'on lui a donné en entrée, donc c'est vraiment des photos avec 2-3 points de vue. Et après, ce qu'on voit en grand écran, c'est qu'il tourne autour.
C'est ça, exactement. Et donc, c'est plein de... C'est toutes ces nouvelles positions.
Et c'est assez incroyable.
Il les imagine... En ayant entraîné son modèle NERF sur des images préconçues. Ça n'empêche. Alors, juste, ça, c'est un truc que j'ai regardé qui m'intéressait. C'est que c'est pas pour ça que c'est pas possible, en deuxième temps, de pouvoir générer un modèle 3D ou un environnement 3D à partir de ton NERF. C'est-à-dire que t'as des technos qui sont, pour le coup, faites en deuxième temps, qui te permettent de convertir ce nuage de points en des polygones, par exemple. Et donc, ça fait que les applications dans le jeu vidéo, par exemple, où tu veux vraiment un objet 3D ou un vrai environnement qui serait un asset que tu peux drag and drop dans ton logiciel, c'est pas impossible qu'on y arrive, en gros. Mais c'est vraiment des briques distinctes. Bref, donc tout le monde s'est jeté sur cette nouvelle techno et l'a améliorée. Il y a eu notamment OzNerf, donc à partir d'une simple vidéo, le modèle est capable de bouger la caméra sous n'importe quel angle. Donc vous allez voir le résultat, c'est assez bluffant. Globalement, toutes les démos que je vous ai trouvées, elles ont un côté très très satisfaisant. Donc là, par exemple, l'input de base, c'est le chercheur qui a filmé son fils en train de marcher dans un champ. Et il est capable de jouer la vidéo.
Ah ouais.
Et à tout moment de déplacer la caméra.
Là, il fait un 360 autour du gamin, quoi. Alors que ça n'a pas du tout été filmé.
Exactement. Lui, ce qu'il a filmé, c'est juste des mouvements normaux, mais qui sont généralisés et qui te donnent une free caméra après pour te balader à l'intérieur.
Ah, du coup, j'ai envie de savoir ce que ça va donner là. Donc là, il filme en mode normal, quoi. Par contre, il a des mouvements un peu bizarres. Ouais. Très saccadé. C'est peut-être parce qu'il y a une imitation.
Je pense que c'est un truc, c'est une danse TikTok ou un truc comme ça.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Ok, donc là, la vidéo commence normalement, mais à peu près à n'importe quel moment, c'est comme si tu pouvais faire pause.
Ah ouais, c'est incroyable.
Et te balader dans la scène.
C'est trop puissant.
Ah ouais, c'est impressionnant.
C'est impressionnant de fou. Et c'est vachement net quand même.
Et c'est une des améliorations qu'ils ont fait, c'est que sur la qualité de l'humain, c'est-à-dire que sur les bâtiments, etc., c'est bien, mais si tu regardes le détourage et juste la qualité de la représentation de l'humain.
C'est fou parce que là, vous voyez des images qui n'ont jamais été filmées, qui n'existent pas, entre guillemets.
Exactement, ouais. C'est vraiment brainfuck. Franchement, on pourrait régaler ça toute la journée.
Oh là là.
Une autre démo très très sympa que j'ai trouvée, ça s'appelle l'ERF. Et donc, c'est une combinaison de NERF, mais avec un modèle de langage qui est capable de non seulement te créer la scène en 3D.
En 3D.
Mais j'aime pas dire ça parce que techniquement, ça ne crée pas la scène 3D en fait.
De créer des objets en 3D.
En fait, en 3D. Donc, il combine le fait de te créer une représentation. Pluridimensionnel des images et la compréhension de ce qui s'y trouve. Donc, par exemple, tu vas taper plante et il est capable de te faire un zoom hyper smooth et te générer plein de nouvelles images tout autour de l'objet.
Ah, super! Tu contrôles la caméra avec du texte.
Ouais, c'est ça. Et donc, là, les applications, je sais pas moi, pour des musées ou pour des jeux ou des trucs comme ça, c'est pareil, assez évident. Juste pour montrer que des technos de reconnaissance d'objets dans les images sont en général généralisables à ce genre de modèle. Le dernier, ça n'a pas de nom, c'est une équipe au Japon qui a créé un plugin pour Unreal Engine, donc qui est un moteur de jeu bien connu, et qui permet de faire des rendus de nerfs nativement directement dans ton environnement Unreal. Donc très concrètement, vous allez, sans plus attendre, vous allez découvrir comment vous pouvez, par exemple, importer votre jardin dans un jeu vidéo.
Ah mais oui.
Donc là, tu prends quelques images ou une vidéo de ton jardin, et bam, téléporté dans un moteur de jeu, et tu peux te balader et jouer dedans. Bon alors là, typiquement...
Et GTA, ça va changer. Hein.
Non mais, c'est sûr, franchement, le temps qu'il devait passer à modéliser
oui.
en très haute qualité des villes, etc.
Là, tu fais Paris en...
Tu gagnes du temps, hein. Franchement. Alors, le petit hic ici, c'est ce dont je vous parlais, c'est que là, vous avez bien vu, les collisions, elles sont pas correctes. C'est-à-dire qu'il
passait à travers. Là.
Exactement, il passait à travers les objets, etc. C'est justement parce qu'il n'y a pas eu cette étape de nerf tout 3D. C'est pas encore des vrais objets 3D okay. Dont Unreal connaîtrait vraiment les dimensions l'emplacement des polygones et pourrait appliquer son système de collision.
Okay.
Il manque une étape, mais c'est déjà très cool, franchement.
Ouais.
J'ai envie de jouer dans mon jardin.
J'ai envie d'avoir un jardin.
Première étape, nous sommes à Paris. Donc, on avance, parce que là, ce qu'on expliquait, c'est que c'est les briques dont on a besoin, c'est un bon modèle de texte ou image, et ensuite, un très bon modèle qui permet de faire de la 2D tout 3D. Vous allez voir, ça va être très utile dans la suite. Pour pouvoir avoir le Graal, à savoir un système où, à la voix, on pourrait avoir des mondes qui apparaissent, etc. Juste avant qu'on y arrive, j'ai envie de vous montrer, pour le plaisir, des petites démonstrations du nerf, mais appliquées à d'autres domaines, notamment dans la vidéo. Par exemple, si on combine un nerf avec les nouvelles techno type Stable Diffusion, etc., qui permettent de faire des remplacements de textures et des choses comme ça, ça donne ça. Si vous regardez ce Bouddha, la version, le nerf original, par exemple, est en bas. Mais quand on le combine avec d'autres techno, ça peut donner ce qu'il y a juste au-dessus.
Ouais.
Où vous avez un Bouddha doré.
Avec derrière tout un ciel qui a été retravaillé.
Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit quand même que ça utilise derrière un Stable Diffusion, parce que parfois, si tu regardes l'arrière de sa tête, tu peux voir un visage fantôme qui apparaît. Attention, là.
Ah, je l'ai vu.
Faut avoir l'œil.
Exactement.
Faut avoir l'œil.
Ouais. Il peut y avoir des mains ou des trucs comme ça qui peuvent apparaître, mais c'est très, très cool. Autre exemple bien sympa, c'est... pour générer un effet bien connu des cinéastes, c'est un effet très hype où en fait tu fais un zoom, donc tu rapproches ta caméra et en même temps tu tournes la bague de ton objectif. Et ça fait ça s'appelle un super zoom, j'ai oublié comment...
C'est un traveling compensé.
Traveling compensé, merci,
il me semble.
Le terme français. sauf que dans la vraie vie, ça demande... C'est super chiant à faire.
Oui, ça, c'est...
ça demande un rail du traveling et d'être super, super ouais. synchro.
Technique.
Beaucoup de matériel, etc. Ça se fait dans des films, voilà. Mais, alors que celui-ci, bon, qui est un peu exagéré, là, c'est pour la démonstration.
Ouais, là, il est bien vénère.
Il est bien vénère, mais,
Mais ça peut être très joli.
Ça peut être beaucoup plus sans effet de décalage, etc. Là. Mais là, vous voyez à quel point c'est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... tremblement, on a vraiment l'impression que le travelling est fait par un robot, quoi. Plus, on a bien l'effet de profondeur distordue, etc. Ouais. Et bien, en fait, cette vidéo a été faite avec un iPhone. Voilà, c'est juste quelqu'un qui a demandé à sa cobaye de ne pas bouger dans la rue, qui a fait une vidéo, on va vous montrer le processus de création, c'est à la fin normalement, qui a pris son iPhone et voilà, qui s'est... Donc, elle bouge vraiment pas. Hein. Par contre, ça, c'est impressionnant. Et le mouvement qui est fait avec l'iPhone, on va le voir juste après, c'est que... ou peut-être qu'il faut descendre un peu, pardon. En fait, le mouvement qui est fait avec l'iPhone, c'est pas d'aller tout droit, justement, mais c'est de tourner un peu autour, comme ça, dans comme une sorte de spirale, pour prendre de l'information. Justement, c'est dans le but du nerf, c'est de prendre vraiment plusieurs points de vue. Et tu tournes, tu tournes, tu tournes.
Ah
tournes,
oui, OK.
Tu tournes. Et en fait, à la fin, tu fournis ça à un nerf, plus précisément à un outil qui s'appelle Pika Labs et qui permet à vous et à nous de le faire facilement avec son iPhone. Le résultat est assez bluffant quand même.
Ouais, c'est
très
impressionnant.
Petite démo suivante, c'est une pub McDo qui a été faite encore avec Nerf. Je vous ai dit, tout le monde s'y met. tout le monde s'arrache ce truc. Et c'est une publicité McDo où tu rentres dans un restaurant et ils s'amusent du coup avec la caméra, avec des effets qui sont probablement impossibles à mon avis à faire tel quel. Sauf peut-être avec des effets spéciaux. Mais ça, par exemple...
Oui, là, il passe dans la...
Ça, c'est juste impossible.
Oh, il est allé dans le paquet. Ah, oh, c'est stylé.
Ouais, ils sont bien amusés. Et donc, voilà, même McDo fait des pubs comme ça. Et pour ceux qui connaissent Corridor Digital, qui est une chaîne YouTube américaine où ils s'amusent beaucoup avec des effets spéciaux, qui sont toujours assez affûtés sur les dernières technos, ils ont aussi fait une démonstration avec un Nerf. Mais... avec aussi des vrais nerfs.
Ah,
c'est un combo, puisque tout simplement ils ont trouvé un moyen que j'avais jamais vu, honnêtement, j'ai jamais vu ça dans aucun film, un moyen de filmer la trajectoire d'une balle de nerf. Je sais pas si on va le voir plus tard, mais c'est une sorte d'effet slow motion combiné à...
Il filme avec son iPhone,
ouais,
ou son téléphone. Wow.
Voilà. Voilà. Juste ça, en fait. Faut réaliser, si tu devais faire ça avec du matériel traditionnel,
un enfer,
sans ce modèle-là, ben, le seul moyen, à mon avis, c'est des
drones.
Des bras.
Ou des bras.
Soit un drone, ouais.
Avec un très bon pilote de drone.
Ouais, avec
très,
un drone
bon
FPV.
FPV champion du monde.
Très, très chaud. Ou alors des bras, mais pareil, tu peux même pas tout faire en été. Donc, très, très impressionnant. Et ce que je vous disais, c'est que vous, dès maintenant, vous pouvez déjà utiliser ça en allant sur Luma AI, par exemple, et qui vous permet comme ça de faire des montages, des créations, des générations de nerfs, et de vous amuser tout simplement. Et c'est gratuit, je sais pas, t'avais essayé Mathieu ou... Ah non, ça je me suis trompé, merde, j'ai confondu.
Si, c'est aussi Luma qui...
ouais,
qui
mais ça c'est pour plus tard là.
Oui.
Spoil.
Oui, ça c'est pour plus tard.
c'est un deuxième onglet dans Luma AI où tu peux...
C'est pas gratuit. Okay. Je crois pas. Je crois que c'est payant.
Une démo gratuite.
J'ai oublié, mais peut-être une démo gratuite.
Ok.
Mais non, ça, j'ai pas pu le tester.
Bon, bref. En tout cas, vous pouvez vous amuser avec. Pardon, je me suis perdu. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que, a priori, là, on est pas mal. On avance.
Dans les briques dont on a besoin.
Mais vous avez peut-être remarqué un truc depuis tout à l'heure, c'est que. Pour l'instant, tout ça, ça n'est pas de la génération. C'est juste, on prend des images du réel et on obtient des points de vue supplémentaires, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de génération pure d'IA, d'environnement. On a juste
réussi à passer d'une photo, d'une vidéo, d'un truc existant, à le faire en 3D. Mais là, on n'a pas fait juste un prompt.
C'est ça. Et pourtant, on pourrait dire qu'on a les deux briques. Donc, on a de la génération texte tout 2D, on a un système de 2D tout 3D. Mais en fait, il y a un problème. Parce que ce qui fait que les scènes Nerf ont des rendus aussi réalistes, c'est que en fait, on leur fournit plusieurs points de vue. C'est-à-dire que vous avez vu, à chaque fois, on donne une vidéo en input. Alors certes, c'est moins demandeur que de la photogrammétrie, etc. Mais c'est la base du truc. C'est ça qui donne ce rendu ultra réaliste. Or, nous, si vous réfléchissez à notre problème, on n'en a qu'un seul. Midjourney ne donne jamais qu'un seul point de vue sur ton objet 3D ou sur ton environnement de ton prochain jeu vidéo.
C'est d'ailleurs un peu embêtant, même quand on fait de la 2D et qu'on veut changer quelque chose sur une image, souvent on n'y arrive pas, ou alors il faut passer par Photoshop.
Exactement. Et bien la solution pour régler ce problème, c'est Google qui l'a trouvé en 2022. Donc ça, c'est pas si vieux en fait. C'est notamment DreamFusion qui était leur premier modèle. Il y a aussi OpenAI qui a sorti PointE. Et depuis, vous vous doutez que ça a été encore amélioré. Mais ils ont trouvé une solution à ce problème pour, à partir d'un seul point de vue, de quand même tirer parti du nerf pour générer des représentations 3D hyper qualitatives. Alors, comment ça marche? Si j'ai bien compris leur méthode, parce qu'honnêtement, le papier n'est pas si évident. Mais l'idée, c'est d'utiliser, en plus de l'image d'origine, d'utiliser le prompt, donc une description de texte, de l'objet qu'on veut obtenir à la fin. Donc si on fait les étapes, j'aimerais un chiot en 3D. D'abord, je demande à Midjourney ou à Stable Diffusion un chiot en 3D.
En 2D.
Un chiot...
une image de chiot.
Exactement, une image de chiot, tout simplement. Et après, avec ça et mon prompt de texte, je vais entraîner un autre modèle. Donc en gros, je vais utiliser... un modèle de diffusion pour vérifier que mon nerf se rapproche du but. En termes précis, on dit que la fonction de perte, donc la loss function, qui est utilisée, c'est celle du modèle de diffusion. Donc en gros, mon nerf, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de guess des points de vue alternatifs.
Ouais.
Donc là, je lui donne en input mon chiot de face. Il va essayer de guess des
vues de côté.
Exactement. Et on va vérifier si ça correspond au prompt. En gros, à quel point cette génération de côté, qui va au début être difforme et dégueulasse, hein, à quel point ça ressemble à un chiot de côté.
Et comment... C'est quoi la mesure pour dire à quel point ça ressemble ?
Eh bien, ça, c'est le secret des modèles de diffusion, justement. Quand tu utilises un modèle type Stable Diffusion, ce que lui, il fait, c'est qu'il génère du bruit, une image complètement aléatoire, et il était entraîné pour de plus en plus se rapprocher d'un chiot à la fin.
OK.
Et à chaque itération, il se rapproche de plus en plus de la description de ton prompt. Eh bien, tout le génie de Google, c'était de dire « Attendez, mais en fait, du coup, on va utiliser ça. On va utiliser ces modèles-là qui marchent super bien, dont on sait qu'ils sont capables de faire converger une image vers un prompt. On va les utiliser pour vérifier que les points de vue du nerf tendent vers une représentation 2D correcte. » Tu vois ce que je veux dire ?
Ok, ouais.
C'est incroyable.
Ouais, j'ai mis un peu de temps à capter. J'espère ne pas avoir trop écorché le truc. Mais quand tu y réfléchis, c'est assez génial. C'est-à-dire que c'est vraiment utiliser la brique texte ou 2D. Donc on sait faire converger des images super bien pour faire tendre du bruit vers un chiot à partir d'un prompt. Et ben, on utilise cette connaissance-là pour entraîner un nerf. Puisqu'à chaque itération, on est capable de dire si les points de vue alternatifs et de côté, etc., correspondent bien au prompt. Tu vois ou pas ?
Moi, vas-y. Non, je t'en prie.
Du coup, il y a de la 2D sur plein de points de vue différents. Et à la fin, en utilisant le modèle de diffusion pour voir si ça correspond au prompt qu'on avait vu, on arrive à voir si tout ça est cohérent en 3D.
Ben, c'est ça, mais à chaque itération. C'est la fonction de perte dans le modèle de langage qui permet d'itérer. Bon, ça, c'est...
Okay.
Si vous avez fait entraîner des réseaux neuronaux, vous voyez très bien. Et c'est ça qui permet de modifier les poids du nerf à chaque itération pour le faire tendre vers quelque chose qui est capable de générer à la fois un truc qui correspond au point de vue de face, mais aussi qui constamment... reste cohérent vis-à-vis du prompt qui était un chiot. Bon.
moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'on dit à un modèle de diffusion, fais-moi un chiot. Après, on dit à un nerf, fais-moi les représentations sur les différents côtés. Et il y a un autre modèle de diffusion qui est aussi capable de représenter un chiot. Tu lui dis, est-ce que ça ressemble à un chiot ? Et du coup, il va pouvoir te répondre oui ou non, globalement, parce que si ça ressemble pas du tout. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des...
Ça te permet de t'en servir pour améliorer ton nerf. Exactement. Et modifier les poids, etc.
Bon, ouais, c'est super malin.
Non, c'est hyper malin, franchement. quand tu captes le truc, c'est génial. C'est littéralement transposer les connaissances 2D vers de la 3D. Et vous doutez bien qu'après les premiers essais de Google, qui sont techniquement intéressants, mais en fait, dans les résultats, vous allez voir, les objets, ils sont pas dingues. Hein, c'est-à-dire que tu vois des petits ratons laveurs, des petits renards. C'est sympa. Maintenant, c'est un bon début, mais c'est pas encore complètement fouillé. Et bien, depuis, vous vous doutez, c'était en 2022, à savoir l'Antiquité, finalement. Et depuis, ça a été encore énormément amélioré. Notamment, il y a l'Huma Genie, que vous avez vu légèrement tout à l'heure, mais qui vous permet de générer d'autres objets super quali. Et là, vous voyez qu'on a encore franchi un petit cap et où ça commence à vraiment se rapprocher d'assets que tu pourrais acheter en tant que développeur de jeux vidéo, tu vois.
Ouais.
Donc là, tu vois, ton petit chiot...
Ça a été si rapide.
Ou tes flammes, où il y a un octopus là-bas. Enfin bon, c'est très satisfaisant de se balader sur leur site. Et globalement, n'importe qui, peut déjà l'essayer. Donc vous, si vous voulez créer un petit compte et faire des tentatives, vous allez voir, c'est très, très cool. Qu'est-ce que t'as mis comme prompt ? J'ai pas vu. Un petit chiot ?
J'ai mis un chien mignon. Un chiot mignon.
Et bah, voici... Sous vos yeux, en temps réel, un petit modèle 3D qui a été généré entièrement. Et là, on commence à se rapprocher de quelque chose de sympa.
Parce que là, c'était vraiment un prompt, c'est très, l'interface est très user-friendly. Comme
bah voilà, ça, là, ça a pris 30
secondes.
On va
avoir testé. Vous pouvez tester en 30 secondes.
30 secondes et vous avez un petit modèle. Alors là, effectivement, si tu zoomes, tu verras que la qualité n'est pas forcément parfaite, mais il faut se dire que c'est un...
à l'aide.
Mais il faut se dire que voilà, c'est une génération super facile. Et en gros, eux, ça c'est un peu pour te mettre l'eau à la bouche. Derrière, ils ont des moyens d'améliorer ces modèles. Ils ont des générations bien plus qualitatives où tu vas payer $1, par exemple, et... Pour le coup, ça prendra 30 minutes à générer, mais tu obtiendras des assets vraiment super, super qualitatifs en haute résolution, etc. Un des derniers qui n'est pas encore sorti, mais dont j'ai trop hâte qu'il sorte, c'est Spline AI. Spline, c'est un petit logiciel de 3D qui est très cool pour ceux qui ne savent pas faire de la 3D. Donc si t'as déjà vu des blenders et des trucs comme ça, que tu trouves ça très cool, mais que c'est un peu hors de portée et que t'as pourtant besoin de te générer des trucs, eh ben tu peux te tourner vers Spline 3D qui est bien plus accessible, mais quand même assez puissant et qui te permet de générer de la 3D optimisée pour le web derrière. Donc tu peux dans ton site web intégrer ta 3D animée avec même potentiellement des interactions ou des choses comme ça. C'est vraiment très très stylé. Et ils ont teasé une version augmentée de leur outil qui te donne accès à un champ de texte, à un prompt, quoi, et où tu peux non seulement générer des modèles 3D, des cubes, des trucs complexes, mais aussi interagir avec et les modifier. Donc, par exemple, ils te font la démonstration où ils demandent 8 cubes alignés dans une grille au prompt. Si tu descends un petit peu, je crois que c'est ça, ils montent ça juste un peu plus bas dans la page. Voilà, j'aimerais une grille avec 8 cubes et après juste en dessous j'aimerais qu'il soit maintenant ordonné de manière aléatoire et paf,
incroyable. en vrai là on commence vraiment à avoir des trucs très stylés. Alors, et puis en plus par des services qui savent faire de l'UI et de l'UX,
ouais, c'est ça,
ça donne envie,
ça va impacter le truc pour que ce soit vraiment agréable à utiliser. Le problème c'est que ça n'est pas encore disponible et que
j'avais vu qu'il y avait une way, c'est ça.
Exactement, on peut s'inscrire pour l'avoir, mais j'ai trouvé aucune démonstration réelle qui permettrait de valider que c'est pas de la poudre aux yeux. C'est ça le problème. Moi, j'ai toujours un peu de méfiance parce que entre parfois la publicité et est-ce que tu observes à la fin, il peut y avoir un gap ou pas suivant les boîtes qui se créent des bonnes réputations, etc. Mais
parce que là, très envie, ça donne envie.
Très envie. Effectivement. Donc, si vous avez un bypass de l'attente et que vous voulez nous envoyer un code, par exemple, n'hésitez pas.
C'est vrai qu'en plus, on n'avait pas été en contact avec Spline, nous.
Je ne sais pas si on est en contact, mais peut-être que Quentin, oui.
C'était Quentin, je crois que c'était Quentin.
On pourrait lui demander. Clairement, l'évolution en un an et demi est complètement hallucinante. On est passé de n'avoir aucune foutue idée qu'on pouvait générer des visages en 2D à être capable d'avoir des assets super qualitatifs. Vous avez même fait des petits essais. J'ai vu une couronne de fleurs, par exemple, des trucs comme ça.
Ouais, ça c'était...
On t'aurait dit ça il y a 2 ans qu'on pourrait faire ça, que n'importe qui pourrait faire ça.
Ouais, j'ai généré une couronne de fleurs sur Luma, du coup, qui permet de le faire, aller quelque part dans le runner, si jamais est-il, mais...
Personne n'y aurait cru, quoi.
Et ce qui est fou, c'est le timing. Nerf, je crois que c'est 2020, la publication. Ce que t'as dit, la Dream Fusion, c'est 2022. Ouais. Donc, ça a l'effet mid-journée au Stable Diffusion. C'est que vraiment, là, on est
au tout début de la courbe.
Préparatoire 2020, alors que les modèles de langage et de diffusion, c'était plus 2017, on va dire. Donc on a vraiment le même schéma. C'est très marrant à observer.
Il y a une dernière question qu'on peut se poser, c'est, OK, là, les modèles, ils ont été conçus. Il y a les premières démos. Mais qu'en disent les pros ? Parce que nous, on est là en mode, c'est cool, c'est sympa. Mais si ça se trouve, on se rend pas compte et c'est inexploitable dans un jeu vidéo, etc. Eh bien, on a voulu justement obtenir des réponses. Et Mathieu, tu as posé la question à des gens dans ton entourage.
Oui, alors c'est pas statistiquement, ça valide pas les quotas.
Ce n'est pas une étude.
La méthode des quotas, ça n'est pas une étude. Mais je me suis dit, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont soit de la 2D, soit de la 3D, etc. Donc j'ai voulu un peu leur demander, j'ai demandé à plusieurs d'entre eux, ce qu'ils en pensaient en fait de la génération 3D par IA. Donc l'outil qui est le plus ressorti, c'est Luma, justement, qui est celui visiblement le plus abouti actuellement dans l'industrie et aussi le plus... utilisable facilement, parce que quand t'es un designer, t'es pas non plus un développeur en intelligence artificielle, donc ça compte aussi. Et ce qui est marrant, c'est que des échos que j'ai eus, c'est ils m'ont dit que c'était pas vraiment utilisable en production quand t'as un client et que tu dois lui fournir un environnement 3D. Parce que, en fait, tu perds plus de temps à chercher à bouger tes prompts que finalement à le faire directement. Et que si t'as des retours clients à adapter, en fait, c'est super compliqué à adapter parce que t'as pas accès au tout le mesh, ce qu'ils appellent le maillage, en fait, de l'objet avec tous ces points 3D. Et donc, par exemple, si tu veux changer l'éclairage de ta scène, tout de suite, ou de l'éclairage d'un objet plutôt, si tu veux, si t'as généré un objet, c'est beaucoup plus dur de changer cet éclairage que si tu le fais toi-même et que tu gères ton éclairage.
J'imagine que quand tu conceptualises ta propre maison en 3D, le logiciel a connaissance des éléments indépendants. Et donc t'es capable de bouger l'emplacement d'une fenêtre ou l'épaisseur d'un truc. Alors que là, ce que t'obtiens, c'est le mesh complet. Qui n'est potentiellement pas du tout conscient de qu'est-ce qui s'arrête à quel endroit, qu'est-ce qui...
C'est ça. Mais tu peux quand même faire chaque objet indépendamment,
oui.
Notamment avec des. Le raisonnement se généralise. Ouais. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que déjà, c'est actuellement, et que dans 2 ans, ça sera sans doute pas du tout la même limonade, et que potentiellement, on m'a dit que ça pouvait complètement tenir la route dans 2 ans. Et en fait, ce qui m'a un peu amusé, c'est que j'ai trouvé cette réaction, en fait, au final. Pas du tout étonnante, parce que c'est une réaction qu'on a un petit peu dans toutes les industries qui sont touchées par l'IA. C'est qu'en fait, les professionnels, déjà, ça te demande de changer tout ton workflow, donc c'est ta méthode de travail, donc c'est plus difficile à prendre en compte. Moi, je le vois pour l'écriture, au final, j'écris assez peu avec des chatbots, alors qu'évidemment, ça se fait très bien, même si je l'utilise un petit peu. Et surtout, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas ces personnes qui vont en premier lieu s'accaparer ce genre d'IA. Nous, on a un exemple dans l'équipe qui est incroyable, c'est Mika, notre monteur. Il est monteur, il n'est pas du tout développeur, mais depuis que sur ChatGPT, on peut coder des choses, c'est devenu un développeur en herbe, alors que potentiellement, le dev de notre équipe, il utilise un peu Copilot ou quoi, mais potentiellement beaucoup moins que Mika, notre monteur, qui est complètement néophyte en code. Parce qu'en fait, ça a changé sa façon de fonctionner. Il s'est dit, en fait, je peux me mettre à coder alors que je ne savais pas du tout. Contrairement à quelqu'un qui sait déjà coder, ça va lui apporter un petit truc en plus, mais pas tant que ça. Et bien en fait, ce raisonnement, il est complètement généralisable à ces environnements 3D. Et donc là où ces outils de génération d'objets 3D et de génération d'environnements 3D sont intéressants, c'est pas forcément pour les designers 3D depuis 10 ans qui ont dans leurs clients... je sais pas, Chanel, enfin bref, qui ont dans leurs clients les mêmes clients depuis 10 ans et qui sont des fidèles, etc. En fait, ça va changer la chose, la donne pour 2 types de personnes, selon moi et selon les discussions que j'ai pu avoir. Premièrement, c'est tous les gens qui ne savent pas du tout faire de 3D, c'est-à-dire nous, 99% des gens.
Ouais, par exemple, ouais,
les développeurs web.
Game Jam, où tu dois faire un jeu vidéo en un week-end, potentiellement, tu as besoin de générer 50 assets pour 50 objets. Toi, t'as juste une liste de tes 50 objets, et tu te fais pas chier, tu lances une moulinette, ça te génère 10 versions par objet, et bam.
Ouais. Et en fait, jusqu'ici, on se disait même pas, je vais pouvoir intégrer des objets 3D à un projet ou à ce que vous voulez. Et ça, peut-être que demain, ça va être complètement possible, même à nous qui ne sommes pas du tout designers 3D. Et il y a un deuxième cas, et je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça, c'est des discussions que j'ai eues où, en fait, la typologie de personnes à qui ça a le plus servi, c'est aux artistes 2D. Que ça soit des illustrateurs, des gens qui font des interfaces, des gens qui... j'ai perdu mes... Des montages photos, des interfaces utilisateurs. C'est qu'en fait, ces artistes 2D, ils vont avoir besoin de références en 3D. Parce que, par exemple, pour faire, je sais pas, une table, t'es contente de voir la table d'un côté de ton écran et puis de la dessiner, par exemple, si t'es illustrateur, et de regarder comme la perspective de cette table, etc. Et en fait, jusqu'ici, soit ils avaient un peu des notions en Blender, donc ils pouvaient le faire, soit on m'a raconté qu'il y en a qui utilisaient Minecraft ou les Sims pour faire ça.
D'accord.
C'est véridique. On m'a vraiment raconté ça, j'étais en mode.
Ah ouais.
Et en fait, ça change complètement la donne pour ces gens parce que ça fait de l'idéation, des refs à l'infini. Tu vas sur Luma, tu crées ta chaise, tu peux dire. Directement avoir un modèle de ta chaise avec potentiellement, tu l'importes dans un logiciel, tu bouges son éclairage ou quoi, ou tu bouges son, pas son éclairage, mais tu la bouges, quoi, ouais, sa position. Et en fait, derrière, tu peux dessiner ton illustration de façon beaucoup plus simple. Et donc, là où ça va aider, c'est pas forcément en premier lieu les designers 3D, c'est tous les métiers qu'il y a autour et qui peuvent se servir de ces outils qui, vu qu'ils sont pas complètement affinés, bah, c'est pas grave pour ce genre de métier qui soit pas complètement affiné. Et du coup, eux, ça leur sert bien. Et donc, du coup, bah, c'est typiquement ce genre de personnes très, très hypées par... Spline prompt là, ouais, qu'on a vu. Moi j'avoue pareil, pourtant j'en aurais rien à faire, mais ouais, j'ai juste envie d'avoir accès à ce truc là.
Le jouet est très très marrant.
Mais voilà. Pour finir, alors il y a eu des nouveautés depuis tout ce que tu as raconté. Il y a notamment Stable Diffusion qui a sorti un peu son modèle qui s'appelle Stable 0123. Et donc ça promet sans doute des avancées dans le secteur. Ça c'était tout récemment, hein. C'était en décembre ou en novembre, il me semble. Mais surtout, d'ailleurs, OpenAI aussi a sorti Spachy. Oh, j'ai oublié le nom. Une nouvelle version de Plenty, pour faire très simple. Mais il y a un truc très important, très intéressant qui est apparu. Je ne sais pas si tu veux en parler ou si tu veux que j'en parle.
Vas-y.
C'est qu'il y a une nouvelle techno qui est apparue à l'été 2023. Ça a moins d'un an. Et en plus, ça vient d'un labo français de l'INRIA. Je ne m'y attendais pas quand j'ai vu ça. Et ça s'appelle le 3D Gaussian Splatting. Pour faire très simple, c'est exactement le même principe que Nerf, mais en différent. En fait, ils font la même chose, mais avec des méthodes mathématiques différentes. Ils utilisent Gauss, comme vous pouvez le deviner. Et en fait, cette méthode qui fait la même chose que Nerf est plus optimisée et aussi précise, voire parfois un peu plus. Mais c'est plus sur en fait, la rapidité à effectuer le calcul, où ça va être très intéressant. On va pouvoir voir une vidéo qui compare Nerf et le Gaussian Splatting. Vous allez voir la vidéo, bon, on voit quelques différences, mais c'est pas flagrant. Par contre, ce qui va être très intéressant, donc voilà, donc ça c'est Nerf, avec Gaussian Splatting à droite. Donc il y a des petites différences, et tu peux potentiellement avancer un peu dans la vidéo. Voilà, donc on voit des petites différences, mais on se dit, ok, c'est deux façons de faire différentes. Parfois, il y a des aberrations de côté qu'il n'y a pas de l'un. Et si tu vas à la fin de la vidéo, tu vas voir une information très importante où il y a marqué le... Alors, du coup, on ne voit pas. C'est un échec.
Training time.
Mais voilà, en gros, training time et rendering time, on est passé de 4h30 à une demi-heure et de 15h de rendering time à 90 secondes. Donc, ça fait la même chose, mais d'une façon beaucoup, beaucoup plus efficace. À tel point que aujourd'hui ils disent qu'ils sont capables de faire ce genre de rendu en temps réel pour du 1080p à 30 fps, ce qui est absolument incroyable. Et en fait, en termes de génération d'objets 3D derrière, ben ça, en fait, le fait que ça soit instantané, comme vous l'avez vu un peu sur les services, le fait que ça aille super vite, c'est très important. Et donc en fait, cette technologie qui est toute récente, été 2023, donc qui a pas encore été trop implémentée dans des services type Luma. Et ben ça promet de très très belles améliorations.
Du très très lourd.
Très très lourd.
Et comme d'habitude, là, tout le monde est un peu circonspect de la qualité du truc, du fait que c'est pas inutilisable, que c'est pas au point. Mais encore une fois, un flashback il y a deux ans, et on s'imaginait qu'en image, on pourrait jamais en faire grand chose, quoi.
Ouais.
Donc m'étonnerait pas qu'un petit plus, un an, plus deux ans, on se retrouve à effectivement pouvoir se générer des mondes, ouais, des mondes complets, ou se générer des objets dans son salon, dans son casque Apple Vision Pro. Et on sera là pour vous en parler dans une prochaine chronique.
Et surtout, il y a déjà des démos honnêtement assez incroyables, surtout que c'est visuel, donc on le voit. Donc tu dis ça plus deux ans.
Moi, ce que j'ai vu, par exemple, juste anecdote de fin, ce que j'ai déjà vu en fait de quelqu'un qui avait un Apple Vision Pro et qui s'est enregistré avec trois fenêtres autour de lui. Sur la première, il avait mis Midjourney dans Discord, donc il lui a demandé de lui générer un petit objet. Sur la deuxième, il utilise le dernier modèle de Stable Diffusion pour transformer cette image 2D en objet 3D.
Okay.
Et sur la troisième, il transforme le fichier en objet compatible. Enfin, je ne sais plus si c'est pas un .3DS ou je ne sais je sais plus quel format. Oui. En fichier compatible Apple. Il télécharge le fichier, et tu sais, dans Apple Vision, dans la version Safari de Apple Vision Pro, t'as un viewer en réalité augmentée. Et donc, il prend l'objet et il le pose sur sa table. Et tu vois, il est passé de, je sais plus si c'était une couronne ou un petit bonhomme ou un truc comme ça, il est passé d'une idée générée dans Discord sur Midjourney à un objet virtuellement sur sa table, tu vois, en 30 secondes.
Ah ouais.
Ouais, c'est fou.
C'est la prémisse de ce qui sera possible, quoi.